Bonjour à tous. Alors on va commencer directement par se plonger dans le texte qu'on va méditer ce matin tous ensemble. Donc c'est le texte de Romains 12, Romains au chapitre 12, versets 1 à 2. Et je vais lire dans la version dite à la colombe. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors je suppose que vous avez déjà entendu ce passage une fois dans votre vie. C'est un des passages les plus connus de l'Épître aux Romains. Et cette épître, en fait, cette lettre, elle est précieuse aux yeux des théologiens. On aime bien l'étudier, donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Parce qu'elle expose bien l'Évangile, en fait. Le réformateur Martin Luther dit que c'est l'Évangile sous sa forme la plus pure. Et dans cette lettre, Paul donne tout son enseignement qu'il a pu peaufiner, tous ses arguments qu'il a pu travailler tout au long de ses voyages et dans ses lettres qu'il a écrites auparavant. Donc il s'agit, même si c'est un enseignement, il s'agit d'une lettre qui est adressée à une église à Rome, mais c'est une église que Paul n'a pas formée, n'a pas fondée, et Paul veut lui rendre visite avant d'aller en Espagne. Alors la lettre aux Romains, on peut la comparer à une ascension sur une montagne. La première partie, c'est les chapitres 1 à 11. On peut voir ça comme une ascension difficile, escarpée. On doit suivre tout le développement que Paul fait, on ne comprend pas forcément tout. Mais c'est la partie la plus solide de l'enseignement. Et il développe des thèmes importants. Les hommes sont déclarés justes devant Dieu. Et ça, c'est un cadeau de la part de Dieu. Et ça vient par la foi. Voilà comment on peut résumer à la louche les chapitres 1 à 11. Et puis, au chapitre 12, à notre passage, on arrive en haut, sur une sorte de petit promontoire, un point de vue. Et les versets 1 à 2 sont un peu le résumé de tout l'autre versant de la montagne. Et c'est la partie plus pratique. Je vous exhorte donc, et là on passe à des impératifs, ne vous conformez pas. Soyez transformés. Donc c'est toute la partie pratique. Donc on a les deux versants, tout l'aspect théorique ou théologique, dans chapitre 1 à 11, et toute la partie pratique, 12 à 15. Voilà pour vous situer un petit peu. Donc c'est un passage important, c'est un passage pivot dans l'Épître. Et c'est intéressant de voir qu'il y a ces deux versants d'une même montagne, qui a la théologie et qui a la pratique. Il y a l'Évangile qui est compris et appliqué dans le cerveau et dans le cœur. Et on va voir ce matin comment Paul nous encourage à vivre cette transformation de l'Évangile. On peut passer à la suite. Donc vous l'avez vu en titre, c'est « Vivons transformés ». Et on peut voir tout d'abord l'action de Dieu et notre réponse à cette action de Dieu. Parce que le passage commence par les compassions de Dieu. C'est Dieu d'abord qui fait preuve de compassion envers nous. C'est Dieu d'abord qui a pitié de nous. Et on l'a entendu plusieurs fois dans la partie introductive de ce culte. Et d'autres traductions ont immense bonté, miséricorde. C'est un même mot pour démontrer tout l'amour que Dieu a pour nous. Et vous le savez bien, mais il faut le rappeler, tout cet amour, il est représenté par Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous. Et il y a ce passage que j'aime beaucoup dans la même lettre, hein, Romains 5, 8. « Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. » Il y avait un prédicateur, je m'en souviens, j'avais regardé une de ses interviews, qui disait « On insiste beaucoup sur le péché, qu'on est pécheur et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. C'est vrai. Mais le sacrifice de Jésus, il montre aussi qu'on a énormément de valeur aux yeux de Dieu, qu'on a du prix. Il a donné son Fils pour nous. Voilà son amour. Je pense que c'est un bon rappel. Et cet amour, ça doit faire le chemin de l'intelligence jusqu'au cœur. Et Jean Calvin dit que les hommes comprennent et aient bien imprimé en leur esprit combien ils sont tenus à la miséricorde de Dieu. Il faut imprimer ça dans nos crânes pour bien comprendre la compassion de Dieu. Dieu est riche en compassion envers nous. C'est ce que Paul dit en Éphésiens 2, versets 4 à 5. Et on peut voir aussi Jésus dans les évangiles, comment se voit cette compassion quand il est devant ses foules et qu'il est ému quand il est pris dans ses tripes. Est-ce qu'on a conscience vraiment d'être aimé? Il y a une prière qui disait d'être aimé tel que nous sommes. Est-ce qu'on a ce sentiment d'immense compassion de Dieu à nos yeux? La Bible du Semeur traduit la suite, enfin ce passage, par « à cause de cette immense bonté ». Ce mot « à cause » montre que cette bonté, cet amour est la base, la source de tout. Notre comportement est basé sur quelque chose. Ce n'est pas comme les philosophies d'aujourd'hui ou les idéologies d'aujourd'hui. Nous, on est basé sur quelque chose de concret, l'amour de Jésus pour nous. Notre comportement chrétien est donc basé sur la reconnaissance. Et on passe à la suite, c'est la vie de gratitude. Ah, non, c'est la slide avant. Voilà. Comment répondre à cet amour? L'amour de Dieu a revêti la forme d'un sacrifice, et il y a tout le vocabulaire du sacrifice dans ce passage. C'est un clin d'œil à l'Ancien Testament, bien sûr. Et au sacrifice de Jésus, notre réponse doit être notre corps en sacrifice, la présentation de nos personnes entières comme sacrifice à Dieu. La vie du disciple, et nous sommes des disciples, c'est de donner, et ce n'est pas de donner des choses, c'est de se donner soi-même. Il y a une différence entre les deux. Dieu ne veut pas qu'on donne des choses, mais il veut le donneur, la personne entière. Et il est mention du corps dans le passage, parce que ça renvoie vraiment à toute la personne. Si Dieu aime toute la personne, la seule réponse adéquate est de retourner toute la personne à cet amour. Et Calvin, Jean Calvin a cette expression, c'est toute la masse de nos personnes, de notre personne. On doit se présenter à Dieu avec tout notre être. Et l'auteur chrétien David C. Cook, que j'ai mis sa citation ici, il avait cette prière pour sa vie. Dieu, fais tout ce que tu peux de ma vie. Et encore une fois, il y avait une prière ce matin. C'est notre question à Dieu. Que veux-tu faire avec notre vie? Et cette présentation, c'est le culte. C'est le culte pour Dieu. Et il ne s'agit pas seulement du culte ici, on est tous rassemblés ce matin, mais Paul étend ça à toutes les dimensions de notre vie. Ce culte, ce n'est pas seulement le dimanche matin, c'est tous les lieux et tous les temps. Ce culte, c'est se présenter à Dieu chaque jour. Dieu, fais tout ce que tu peux de moi aujourd'hui. Et ce vrai culte, c'est une obéissance à Dieu. C'est l'obéissance de la foi, comme il est dit dans d'autres passages de Romains. Et Jésus-Christ est notre Seigneur. Croire en lui signifie un engagement à lui obéir. Est-ce que ma vie est un culte de reconnaissance à Dieu? Est-ce que je peux dire, Dieu, fais tout ce que tu peux avec ma vie? Alors c'est une obéissance, mais une obéissance parce que Dieu nous en donne la force, parce que nous sommes transformés. Nous pouvons offrir nos vies à Dieu, nous pouvons obéir si on ne se conforme pas au monde, mais si nous sommes transformés. Et là, c'est la deuxième partie. On parle du monde dans ce passage. Le monde, c'est le royaume dominé par le péché. C'est notre situation d'hommes et de femmes déchus. Nous sommes tombés. C'est le monde séparé de Dieu. Et c'est aussi des habitudes, des façons de faire naturelles et communes aux hommes. Mais Christ est venu pour nous sauver de ce monde. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent, dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu, notre Père. C'est Galates 1, verset 14. On sait bien ça, mais ça nous isole pas de l'influence du monde. Et je pense que chacun d'entre nous ici présents, on connaît cette pression, on connaît cette influence du monde sur nous. Il y a plein d'images qui nous arrivent, les médias, la publicité, la mode, la pression sociale des groupes, la pression matérialiste, juste aussi les idéologies, et sont des images très efficaces, surtout quand on ne les perçoit pas, surtout quand on n'en a pas conscience. Et du coup, il y a des pensées, des phrases qui sont très présentes dans ce monde et qui nous influencent. On peut en relever quelques-unes. De toute façon, ce n'est pas mon problème. Ils devraient faire leur part. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. J'ai besoin de ça. Ils devraient faire leur part. Je l'ai déjà dit. S'ils sont pauvres, c'est qu'ils sont paresseux. Les immigrés ne sont pas bien intégrés. On pourrait continuer la liste de toutes ces petites phrases qu'on peut se surprendre à dire quelquefois. Mais Paul nous appelle à résister à cette pression, à ne pas rentrer dans ce moule. L'auteur anglican dit « Ne laissez pas le monde autour de vous vous presser dans son moule. » Cet âge, ce temps, travaille sur nous. Il nous travaille au corps. Mais courage, Jésus a vaincu le monde. Et le Saint-Esprit aussi travaille en nous. C'est l'Évangile qui nous transforme. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on peut résister. Et c'est incroyable parce que c'est Dieu éternel, grand, qui est venu habiter en nous, qui est venu faire sa demeure en nous. Si on a ça, qu'est-ce qu'on a à craindre? Mais on a également une responsabilité, d'où les verbes à l'impératif, dans ce passage. Ne vous conformez pas et soyez transformés. Ça vient pas seulement de l'extérieur, mais ça vient aussi de l'intérieur, les choses mauvaises. Et pour nous vêtir de Christ, il faut aussi savoir délaisser des choses, se dépouiller de ce que nous avons de l'homme, de notre vieil homme. Est-ce que je résiste à la manière de penser du monde ? Est-ce que je ne dis pas des phrases du monde ? Est-ce que je me dépouille totalement de mon ancienne vie, de mes anciennes habitudes ? L'abandon de sa vie est de notre responsabilité, mais la transformation de la vie est du ressort de Dieu. Alors, je ne sais pas si certains reconnaîtront la citation « Désapprendre ce que nous avons appris ». Quand Luke Skywalker, dans Star Wars, suit son entraînement avec Maître Yoda, il lui dit « Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris », avec sa sagesse. Nous aussi, dans un sens, on doit désapprendre ce qu'on a appris. Parce que le lieu de la transformation, c'est notre intelligence. Elle doit être renouvelée. Et l'intelligence, c'est toute l'attitude intérieure, la pensée, la volonté. Tout ça doit être changé, on doit subir une transplantation de cerveau. Parce que la manière de penser du monde n'est pas celle de Dieu. Ce qui semble juste pour une personne perdue, qui ne connaît pas Dieu, ne l'est pas aux yeux de Dieu, et inversement. Et il y a plein de passages qui parlent de la folie de Dieu, qui est opposée à la sagesse des hommes. La folie de Dieu, c'est d'aimer les pécheurs, les faibles, contre la sagesse humaine, qui favorise les plus forts et met en avant la beauté superficielle. Il y a un autre passage de la Bible qui emploie le mot « transformer ». C'est dans 2 Corinthiens 3, 18. Je vais le lire en entier, enfin juste ce verset. 2 Corinthiens 3, 18. Et nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. C'est ça que Dieu veut pour nous, être transformés à l'image de son Fils. Le fait d'être disciple, c'est d'apprendre et de suivre Christ. Et si on passe du temps à contempler Dieu, eh bien, invariablement, petit à petit, on sera transformé dans sa ressemblance, dans la ressemblance au Christ. Contempler Dieu chaque jour. Ce reprogrammage, c'est le processus de toute une vie, hein, c'est la sanctification. Et c'est un défi immense parce qu'on est né dans ce monde. Et on pense depuis notre enfance dans ce monde. Et on est poussé à utiliser notre propre intelligence. Mais on doit ajuster notre manière de penser sur notre nouvelle vie dans l'esprit. Plusieurs questions encore. Est-ce que je veux être comme Jésus ? Ça paraît simple, mais on doit se la poser. Est-ce que je suis ouvert à un reprogrammage complet ? Où est-ce que j'en suis dans le renoncement à moi-même ? Alors on l'a vu, cette transformation, elle est d'abord intérieure. Enfin, elle est intérieure. Et elle est aussi extérieure. On le voit. Elle se décline dans le corps, dans le lien avec le monde. La transformation intérieure est tournée vers l'extérieur. Et on peut passer à la suite. Appelez cette partie « discernement pour l'action ». Et l'objectif, c'est de pouvoir réfléchir comme Dieu, avoir son intelligence renouvelée pour réfléchir comme Dieu, penser comme Dieu. Et dans certains milieux chrétiens, on a un peu cette crainte par rapport à l'intelligence, à l'intellect. Mais il s'agit de ça ici, de l'intelligence. Et la pensée renouvelée nous permet de nous voir, nous, les autres et le monde, avec la perspective de la croix, de l'amour, du pardon. Et voici ce que Paul demande dans ses prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez pur et irréprochable au jour du Christ. C'est dans Philippiens 1, 10. Un de mes professeurs à la fac, c'est pour ça que certains sourient, utilise toujours une paire de lunettes de soleil qui se clipsent pour illustrer notre vision du monde, en fait. On voit les choses à travers une paire de lunettes, tous. Et moi, je vous encourage ce matin à mettre une paire de lunettes de soleil, de la grâce, du pardon, de l'amour, les mêmes que Dieu a envers nous, pour faire sa volonté. Et sa volonté, ce n'est pas chercher sans cesse que Dieu va faire comme prédestination. Je pense qu'au lieu de s'inquiéter sur quelle est la volonté de Dieu, on devrait s'inquiéter de faire la volonté qui est dans la parole et qui est claire. Sa volonté est qu'on se présente à lui pour être transformé à l'image de Christ. Et pour que s'accomplisse cette volonté, c'est Dieu qui opère le vouloir et le faire en nous. C'est dans Philippiens 2, 13. Dieu donne, nous nous l'accueillons. Est-ce que je m'inquiète de choses secondaires en demandant la volonté de Dieu ? Ou est-ce que je me préoccupe de choses éternelles ? Et est-ce que je demande à Dieu qu'il me transforme chaque jour ? Est-ce que je regarde le monde comme Dieu le voit ? Est-ce que je mets ses lunettes de soleil ? Alors tout ça, c'est en vue de faire le bien. C'est la dernière partie du passage. C'est pour agir. Et le risque ici, c'est de former une liste de choses à faire et ne pas faire. Ne pas boire, ne pas fumer, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Mais Dieu regarde au cœur. Il regarde à la transformation. Et l'exemple de Jésus, c'est encore une fois le bon. Et vous avez sûrement entendu cette image du thermostat et du thermomètre. Jésus était thermostat. C'est lui qui réglait la température là où il allait. C'est pas lui qui était influencé par la température ambiante. Il s'éloignait pas des pêcheurs qui étaient reconnus, des pêcheurs notoires, célèbres. Mais à la manière d'un docteur, il restait avec les malades. Et dans tout ce passage, Paul nous montre qu'il ne faut plus considérer la loi, l'Ancien Testament, comme une liste de choses à faire, comme un guide de comportement. Mais à la place, il y a la transformation intérieure, opérée par le Saint-Esprit. Et le but de Paul, c'est que ce renouvellement soit tellement fait, soit si bien, que nos pensées soient si bien travaillées, que la loi du Christ, d'aimer notre prochain, ben, ça devienne instinctif, ça devienne une nouvelle nature, un nouvel instinct, et que l'on plaise à Dieu dans toute situation. En conclusion, on peut dire ce passage, il y a tout dedans. Et on voit que l'Évangile, c'est un message de transformation. L'amour de Dieu, incroyable et qui surpasse tout, qu'on peut trouver nulle part autre, doit susciter en nous une adhésion totale. Il demande tout notre corps, toute notre personne. Et cette adhésion totale est possible par notre transformation intérieure. Et celle-ci nous pousse à agir, à faire le bien. Et on pourrait résumer tout ça avec le commentateur Edwards qui dit « La foi qui sauve est une foi qui doit être vécue. Et seulement la foi qui est vécue est une foi qui sauve. Et ceci avec l'aide de l'Esprit. Amen. »